Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 2, chapitre 4. Homme pieux dans les cloîtres, Staupitz, sa piété, sa visite, conversation, la grâce de Christ, la repentance, puissance du péché, douceur de la repentance, l'élection, la providence, la Bible, le vieux moine, la rémission des péchés, consécration, le dîner, la fête Dieu, vocation à Wittenberg. Luther n'était pas le premier moine qui eût passé par de pareils combats. Les cloîtres enveloppaient souvent de l'obscurité de leurs murs des vices abominables qui eussent fait frémir toute âme honnête si on les avait découverts. Mais souvent aussi, ils cachaient des vertus chrétiennes qui s'y développaient dans le silence et qui, exposées au regard du monde, en eussent fait l'admiration. Ceux qui possédaient ces vertus, ne vivant qu'avec eux-mêmes et avec Dieu, n'excitaient pas l'attention et étaient souvent même ignorés du modeste couvent où ils étaient enfermés. Leur vie n'était connue que de Dieu. Quelquefois, ces humbles solitaires tombaient dans cette théologie mystique, triste maladie des esprits les plus nobles, qui fit autrefois les délices des premiers moines sur les bords du Nil et qui consume inutilement les âmes dont elles s'emparent. Cependant, si l'un de ces hommes se trouvait appelé à une place éminente, il y déployait des vertus dont l'influence salutaire se faisait ressentir longtemps et au loin. La chandelle était mise sur le chandelier et elle éclairait toute la maison. Plusieurs étaient réveillés par cette lumière. Ainsi, ces âmes pieuses se propageaient de génération en génération. On les vit briller comme des flambeaux isolés dans les temps mêmes où les cloîtres n'étaient souvent que les impurs réceptacles des plus profondes ténèbres. Un jeune homme s'était ainsi fait remarquer dans l'un des couvents de l'Allemagne. Il se nommait Jean Staupitz et était issu d'une famille noble de la Misnie. Il avait eu, dès sa plus tendre jeunesse, le goût de la science et l'amour de la vertu. Il sentit le besoin de la retraite pour s'adonner aux lettres. Bientôt, il trouva que la philosophie et l'étude de la nature ne pouvaient pas grand-chose pour le salut éternel. Il se mit donc à étudier la théologie. Mais il s'appliquait surtout à joindre la pratique à la science, car, dit l'un de ses biographes, « c'est en vain qu'on se pare du nom de théologien si l'on ne confirme pas ce beau nom par sa vie. » L'étude de la Bible et de la théologie de saint Augustin, la connaissance de soi-même, les combats qu'il eut à livrer, comme Luther, contre les ruses et les convoitises de son cœur, l'amenèrent au Rédempteur. Il trouva dans la foi en Christ la paix de son âme. La doctrine de l'élection de grâce s'était surtout emparée de son esprit. La justice de la vie, la profondeur de la science, l'éloquence de la parole, non moins qu'un extérieur distingué et des manières pleines de dignité, le recommandaient à ses contemporains. L'électeur de Saxe, Frédéric le Sage, en fit son ami. Il l'employa dans diverses ambassades et fonda sous sa direction l'université de Wittenberg. Ce disciple de saint Paul et de saint Augustin fut le premier doyen de la faculté de théologie de cette école, d'où la lumière devait un jour jaillir pour éclairer les écoles et les églises de tant de peuples. Il assista au concile de Latran, au nom de l'archevêque de Salzbourg, devint provincial de son ordre en Thuringe et en Saxe, et plus tard vicaire général des Augustins pour toute l'Allemagne. Staupitz gémissait de la corruption des mœurs et des erreurs de doctrine qui désolaient l'Église. Ses écrits sur l'amour de Dieu, sur la foi chrétienne, sur la ressemblance avec la mort de Christ et le témoignage de Luther en font foi. Mais il regardait le premier de ses mots comme beaucoup plus grand que le dernier. D'ailleurs, la douceur et l'indécision de son caractère, son désir de ne point sortir du cercle d'action qu'il se croyait assigné, le rendaient plus propre à être le restaurateur d'un couvent que le réformateur de l'Église. Il eût voulu n'élever à des charges de quelque importance que des hommes distingués, mais n'en trouvant pas, il se résignait à en employer d'autres. « Il faut labourer, disait-il, avec les chevaux que l'on trouve, et si l'on n'a pas de chevaux, labourer avec des bœufs. » Nous avons vu les angoisses et les luttes intérieures auxquelles Luther était en proie dans son couvent d'Erfurt. À cette époque, on annonça la visite du vicaire général. Staupitz arriva en effet pour faire son inspection ordinaire. L'ami de Frédéric, le fondateur de l'université de Wittenberg, le chef des Augustins, témoigna de la bienveillance à ses moines soumis à son autorité. Bientôt, l'un des frères attira son attention. C'était un jeune homme d'une stature moyenne, que l'étude, l'abstinence et l'éveil avaient amaigri, en sorte que l'on pouvait compter tous ses os. Ses yeux, que l'on compara plus tard à ceux du faucon, étaient abattus. Sa démarche était triste, son regard décelait une âme agitée, en proie à mille combats, mais forte pourtant et portée à la résistance. Il y avait dans tout son être quelque chose de grave, de mélancolique et de solennel. Staupitz, dont une longue expérience avait exercé le discernement, découvrit aisément ce qui se passait dans cette âme et distingua ce jeune frère entre tous ceux qui l'entouraient. Il se sentit attiré vers lui, pressentit ses grandes destinées et éprouva pour son subordonné un intérêt tout paternel. Il avait eu à lutter comme Luther, il pouvait donc le comprendre. Il pouvait surtout lui montrer le chemin de la paix qu'il avait lui-même trouvé. Ce qu'il apprit des circonstances qui avaient amené dans le couvent le jeune Augustin augmenta encore sa sympathie. Il invita le prieur à le traiter avec plus de douceur et il profita des occasions que sa charge lui offrait pour gagner la confiance du jeune frère. S'approchant de lui avec affection, il chercha de toute manière à dissiper sa timidité, augmentée encore par le respect et la crainte qu'un homme d'un rang aussi élevé que Staupitz devait lui inspirer. Le cœur de Luther, que des traitements durs avaient jusqu'alors fermé, s'ouvrit enfin et se dilata au doux rayon de la charité. Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur d'un homme répond à celui d'un autre homme. Proverbe chapitre 27, verset 9. Le cœur de Staupitz répondit au cœur de Luther. Le vicaire général le comprit et le moine sentit pour lui une confiance qu'il n'avait encore éprouvée pour personne. Il lui révéla la cause de sa tristesse, il lui dépeignit les horribles pensées qui l'agitaient, et alors commencèrent dans le cloître d'Erfurt des entretiens pleins de sagesse et d'instruction. « C'est en vain, dit avec abattement Luther à Staupitz, que je fais des promesses à Dieu. Le péché est toujours le plus fort. Oh, mon ami, lui répondit le vicaire général en faisant un retour sur lui-même, j'ai juré plus de 1000 fois à notre Dieu saint de vivre pieusement. Et je ne l'ai jamais tenu. Maintenant, je ne veux plus le jurer, car je sais que je ne le tiendrai pas. Si Dieu ne veut pas user de grâce envers moi pour l'amour de Christ et m'accorder un heureux départ quand je devrai quitter cette terre, je ne pourrai avec tous mes vœux et toutes mes bonnes œuvres subsister devant lui. Il faudra que je périsse. » Le jeune moine s'effraie à la pensée de la justice divine. Il expose au vicaire général toutes ses craintes, la sainteté ineffable de Dieu, Sa Majesté souveraine l'épouvante. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra subsister quand il paraîtra? Staupitz reprend la parole. Il sait où il a trouvé la paix. Il l'enseignera au jeune homme. Pourquoi, lui dit-il, te tourmentes-tu de toutes ces spéculations et de ces hautes pensées? Regarde aux plaies de Jésus-Christ, au sang qu'il a répandu pour toi. C'est là que la grâce de Dieu t'apparaîtra. Au lieu de te martyriser pour tes fautes, jette-toi dans les bras du Rédempteur, confie-toi en lui, en la justice de sa vie, en l'expiation de sa mort. Ne recule pas, Dieu n'est pas irrité contre toi, c'est toi qui es irrité contre Dieu. Écoute le Fils de Dieu, il est devenu homme pour te donner l'assurance de la faveur divine. Il te dit, tu es ma brebis, tu entends ma voix, personne ne te ravira de ma main. Mais Luther ne trouve point ainsi la repentance qu'il croit nécessaire au salut. Il répond, et c'est la réponse ordinaire des âmes angoissées et craintives, « Comment oser croire à la faveur de Dieu tant qu'il n'y a point en moi une véritable conversion? Il faut que je change pour qu'il m'accepte. » Son vénérable guide lui montre qu'il ne peut y avoir de véritable conversion aussi longtemps que l'homme craint Dieu comme un juge sévère. « Que direz-vous donc ? » s'écrie Luther à tant de conscience auquel on prescrit 1000 ordonnances insupportables pour gagner le ciel. Alors, il entend cette réponse du vicaire général, ou plutôt il ne croit pas qu'elle vienne d'un homme, il lui semble que c'est une voix qui retentit du ciel. « Il n'y a, dit Staupitz, de repentance véritable que celle qui commence par l'amour de Dieu et de la justice. Ce que les autres s'imaginent être la fin et l'accomplissement de la repentance n'en est au contraire que le commencement. Pour que tu sois rempli d'amour pour le bien, il faut avant tout que tu sois rempli d'amour pour Dieu. Si tu veux te convertir, ne recherche pas toutes ces macérations et tous ces martyrs. Aime celui qui t'a aimé le premier. » Luther écoute, il écoute encore. Ses consolations le remplissent d'une joie inconnue et lui donnent une lumière nouvelle. « C'est Jésus-Christ, » pense-t-il en son cœur, « oui, c'est Jésus-Christ lui-même qui me console si admirablement par ses douces et salutaires paroles. » Ces paroles, en effet, pénètrent au fond du cœur du jeune moine comme la flèche aiguë d'un homme puissant. Pour se repentir, il faut aimer Dieu. Éclairé de cette lumière nouvelle, il se met à conférer les Écritures. Il recherche tous les passages où elles parlent de repentance, de conversion. Ces mots, aussi redoutés jusqu'alors pour employer ses propres expressions, sont devenus pour lui un jeu agréable et la plus douce des récréations. Tous les passages de l'Écriture qui l'effrayaient lui semblent maintenant accourir de toutes parts, sourire, sauter autour de lui et jouer avec lui. Auparavant, s'écrit-il, quoique je dissimulasse avec soin devant Dieu l'état de mon cœur et que je m'efforçasse de lui exprimer un amour qui n'était qu'une contrainte et une fiction, il n'y avait pour moi dans l'Écriture aucune parole plus amère que celle de repentance. Mais maintenant, il n'en est point qui me soit plus douce et plus agréable. Oh, que les préceptes de Dieu sont doux, quand on ne les lit pas seulement dans les livres, mais aussi dans les plaies précieuses du Sauveur. Cependant, Luther, consolé par les paroles de Staupitz, retombait quelquefois dans l'abattement. Le péché se faisait de nouveau sentir à sa conscience craintive, et alors, à la joie du salut, succédait tout son ancien désespoir. « Oh, mon péché, mon péché, mon péché !» s'écriait un jour le jeune moine en présence du vicaire général, avec l'accent de la plus vive douleur. « Eh, voudrais-tu n'être qu'en peinture, un pécheur ?» répliqua celui-ci, « et n'avoir qu'un sauveur en peinture ?» Puis Staupitz ajouta avec autorité, « Sache que Jésus-Christ est sauveur, même de ceux qui sont de grands, de vrais pécheurs, et dignes d'une entière condamnation. » Ce qui agitait Luther, ce n'était pas seulement le péché qu'il trouvait dans son cœur. Au trouble de la conscience venaient se joindre ceux de la raison. Si les saints préceptes de la Bible l'effrayaient, telles des doctrines du divin livre augmentaient encore ses tourments. La vérité, qui est le grand moyen par lequel Dieu donne la paix à l'homme, doit nécessairement commencer par lui enlever la fausse sécurité qu'il perd. La doctrine de l'élection troublait surtout le jeune homme et le lançait dans un champ difficile à parcourir. Devait-il croire que c'était l'homme qui le premier choisissait Dieu pour sa part ou que c'était Dieu qui le premier choisissait l'homme? La Bible, l'histoire, l'expérience journalière, les écrits d'Augustin, tout lui avait montré qu'il fallait toujours et en toute chose remonter en dernière fin à cette volonté souveraine par laquelle tout existe et de laquelle tout dépend. Mais son esprit ardent eût voulu aller plus loin. Il eût voulu pénétrer dans le conseil secret de Dieu, en dévoiler les mystères, voir l'invisible et comprendre l'incompréhensible. Staupitz l'arrêta. Il l'invita à ne pas prétendre sonder le Dieu caché, mais à s'en tenir à ce qui nous en est manifesté en Christ. « Regarde les plaies de Christ, lui dit-il, et tu verras reluire avec clarté le conseil de Dieu envers les hommes. On ne peut comprendre Dieu hors de Jésus-Christ. En Christ, vous trouverez ce que je suis et ce que je demande, a dit le Seigneur. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs, ni dans le ciel, ni sur la terre. » Le vicaire général fit plus encore. Il fit reconnaître à Luther le dessein paternel de la providence de Dieu en permettant ses tentations et ses combats divers que son âme devait soutenir. Il les lui fit envisager sous un jour bien propre à ranimer son courage. Dieu se prépare, par de telles épreuves, les âmes qu'il destine à quelque œuvre importante. Il faut éprouver le navire avant de le lancer sur la vaste mer. S'il est une éducation nécessaire à tout homme, il en estime particulière pour ceux qui doivent agir sur leur génération. C'est ce que Staupitz représenta au moine d'Erfurt. « Ce n'est pas en vain, lui dit-il, que Dieu t'exerce par tant de combats. Tu le verras. Il se servira de toi dans de grandes choses, comme de son ministre. » Ces paroles, que Luther écoute avec étonnement et avec humilité, le remplissent de courage et lui font reconnaître en lui des forces qu'il n'avait pas même soupçonnées. La sagesse et la prudence d'un ami éclairé révèlent peu à peu l'homme fort en lui. Staupitz n'en reste pas là. Il lui donne pour ses études de précieuses directions. Il l'exhorte à puiser, désormais, toute sa théologie dans la Bible, en laissant de côté les systèmes des écoles. « Que l'étude des Écritures, lui dit-il, soit votre occupation favorite. Jamais meilleur conseil ne fut mieux suivi, mais ce qui réjouit surtout Luther, c'est le présent d'une Bible que Staupitz lui fait. C'était peut-être cette Bible latine reliée en peau rouge qui appartenait au couvent et que tout son désir était de posséder et de pouvoir porter avec lui parce qu'il en connaissait si bien toutes les feuilles et qu'il savait où trouver chaque passage. Enfin, il possède lui-même ce trésor. Dès lors, il étudie l'Écriture et surtout les épîtres de saint Paul avec un zèle toujours croissant. Il ne joint plus à l'étude de la Bible que celle de saint Augustin. Tout ce qu'il lit s'imprime avec force dans son âme. Les combats ont préparé son cœur à comprendre la parole. Le sol a été labouré très profond. La semence incorruptible le pénètre avec puissance. Quand Staupitz quitta Erfurt, un nouveau jour s'était levé pour Luther. Néanmoins, l'œuvre n'était pas finie. Le vicaire général l'avait préparée. Dieu réservait à un instrument plus humble de l'accomplir. La conscience du jeune Augustin n'avait pas encore trouvé le repos. Son corps succomba enfin sous les efforts et sous la tension de son âme. Il fut atteint d'une maladie qui le conduisit aux portes du tombeau. C'était alors la seconde année de son séjour au couvent. Toutes ses angoisses et ses terreurs se réveillèrent à l'approche de la mort. Ses souillures et la sainteté de Dieu troublèrent de nouveau son âme. Un jour que le désespoir l'accablait, un vieux moine entra dans sa cellule et lui adressa quelques paroles consolantes. Luther lui ouvrit son cœur et lui fit connaître les craintes qui l'agitaient. Le respectable vieillard était incapable de suivre cette âme dans tous ses doutes, comme l'avait fait Staupitz. Mais il savait son credo, et il y avait trouvé de quoi consoler son cœur. Il appliquera donc au jeune frère ce même remède. Le ramenant à ce symbole des apôtres, que Luther avait appris dans sa première enfance, à l'école de Mansfeld, le vieux moine prononça avec bonhomie cet article « Je crois la rémission des péchés ». Ces simples paroles, que le pieux frère récita avec candeur dans ce moment décisif, répandirent une grande consolation dans l'âme de Luther. « Je crois, » répéta-t-il bientôt en lui-même sur son lit de douleur, « je crois la rémission des péchés. » « Ah !» dit le moine, « il ne faut pas seulement croire que les péchés sont remis à David ou à Pierre. C'est là ce que croient les démons. Le commandement de Dieu est que nous croyons qu'ils nous sont remis à nous-mêmes. » Que ce commandement parut doux au pauvre Luther. Voici ce que dit saint Bernard dans son discours sur l'Annonciation, ajouta le vieux frère. « Le témoignage que le Saint-Esprit rend dans ton cœur est celui-ci. Tes péchés sont remis. » Dès ce moment, la lumière jaillit dans le cœur du jeune moine d'Erfurt. La parole de la grâce a été prononcée, il l'a cru, il renonce à mériter le salut et s'abandonne avec confiance à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il ne saisit point les conséquences du principe qu'il a admis, il est encore sincère dans son attachement à l'Église et cependant, il n'a plus besoin d'elle, car il a reçu le salut immédiatement de Dieu même. Et dès lors, le catholicisme romain est virtuellement détruit en lui. Il avance, il recherche dans les écrits des apôtres et des prophètes tout ce qui peut fortifier l'espérance qui remplit son cœur. Chaque jour, il invoque le secours d'en haut, et chaque jour aussi, la lumière croît dans son âme. La santé qu'avait trouvée son esprit rendit la santé à son corps. Il se releva promptement de son lit de maladie. Il avait reçu doublement une vie nouvelle. Les fêtes de Noël, qui arrivèrent bientôt, lui firent goûter en abondance toutes les consolations de la foi. Il prit part avec une douce émotion à ces saintes solennités, et lorsqu'au milieu des pompes de ce jour, il dut chanter ces paroles « O beata culpa, quae talem meruisti redemptorem », c'est-à-dire « aux fautes bienheureuses qui a mérité un tel rédempteur », tout son être dit « Amen » et tressaillit de joie. Luther était depuis 2 ans dans le cloître. Il devait être consacré prêtre. Il avait beaucoup reçu et il entrevoyait avec joie la perspective que lui offrait le sacerdoce de donner gratuitement ce qu'il avait reçu gratuitement. Il voulut profiter de la cérémonie qui allait avoir lieu pour se réconcilier pleinement avec son père. Il l'invita à y assister et lui demanda même d'en fixer le jour. Jean Luther, qui n'était point encore entièrement apaisé envers son fils, accepta néanmoins cette invitation et indiqua le dimanche 2 mai 1507. Au nombre des amis de Luther se trouvait le vicaire d'Isenach, Jean Braun, qui avait été pour lui un conseiller fidèle pendant son séjour dans cette ville. Luther lui écrivit le 22 avril. C'est la plus ancienne lettre du réformateur. Elle porte l'adresse suivante, à Jean Braun, saint et vénérable prêtre de Christ et de Marie. Ce n'est que dans les deux premières lettres de Luther que le nom de Marie se trouve. « Le Dieu qui est glorieux et saint dans toutes ses œuvres, dit le candidat à la prêtrise, ayant daigné m'élever magnifiquement, moi malheureux et de toute manière indigne pécheur, et m'appeler par sa seule et très libérale miséricorde à son sublime ministère, je dois, pour témoigner ma reconnaissance d'une bonté si divine et si magnifique, autant du moins que la poudre peut le faire, remplir de tout mon cœur l'office qui m'est confié. » Enfin le jour arriva. Le mineur de Mansfeld ne manqua pas à la consécration de son fils. Il lui donna même une marque non équivoque de son affection et de sa générosité, en lui faisant à cette occasion un cadeau de 20 florins. La cérémonie eut lieu. C'était Jérôme, évêque de Brandebourg, qui officiait. Au moment où il conféra à Luther la puissance de célébrer la messe, il lui mit en main le calice et lui dit ces paroles solennelles « Accipe potestatem sacrificandi provivis et mortuis » reçoit la puissance de sacrifier pour les vivants et pour les morts. Luther écouta alors tranquillement ces paroles qui lui accordaient le pouvoir de faire l'œuvre même du Fils de Dieu. Mais il en frémit plus tard. « Si la terre ne nous a pas alors engloutis tous deux, dit-il, ce fut à tort et par la grande patience et longanimité du Seigneur. » Le père dîna ensuite au couvent avec son fils, les amis du jeune prêtre et les moines. La conversation tomba sur l'entrée de Martin dans le cloître. Les frères l'exaltaient fort, comme une œuvre des plus méritoires. Alors, l'inflexible Jean, se tournant vers son fils, lui dit « N'as-tu pas lu dans l'Écriture qu'on doit obéir à son père et à sa mère ?» Ces paroles frappèrent Luther. Elles lui présentèrent sous un tout autre aspect l'action qui l'avait amené dans le sein du couvent, et elle retentira encore longtemps dans son cœur. Luther, d'après le conseil de Stopitz, fit, peu après sa consécration, de petites courses à pied dans les cures et les couvents des environs, soit pour se distraire et procurer à son corps l'exercice nécessaire, soit pour s'habituer à la prédication. La fête Dieu devait être célébrée avec pompe à Eisleben. Le vicaire général devait s'y trouver. Luther s'y rendit. Il avait encore besoin de Stopitz et il recherchait chaque occasion de se rencontrer avec ce conducteur éclairé qui guidait son âme sur le chemin de la vie. La procession fut nombreuse et brillante. Stopitz lui-même portait le Saint-Sacrement. Luther suivait, revêtu de l'habit sacerdotal. La pensée que c'était Jésus-Christ lui-même que portait le vicaire général, l'idée que le Seigneur était en personne là, devant lui, vint tout à coup frapper l'imagination de Luther et le remplit d'une telle épouvante qu'il pouvait à peine avancer. La sueur lui coulait goutte à goutte, il chancelait et il crut qu'il allait mourir d'angoisse et d'effroi. Enfin, la procession finit. Ce sacrement, qui avait réveillé toutes les craintes du moine, fut déposé solennellement dans le sanctuaire. Et Luther, se trouvant seul avec Stopitz, se jeta dans ses bras et lui confessa son épouvante. Alors le bon vicaire général, qui connaissait depuis longtemps ce bon sauveur, qui ne brise pas le roseau à moitié cassé, lui dit avec douceur « Ce n'était pas Jésus-Christ, mon frère. Jésus-Christ n'épouvante pas, il console seulement. » Luther ne devait pas demeurer caché dans un obscur couvent. Le temps était venu pour lui d'être transporté sur un plus grand théâtre. Stopitz, avec qui il resta toujours dans des relations suivies, sentait bien qu'il y avait dans le jeune moine une âme trop active pour qu'elle fût renfermée dans un cercle si étroit. Il parla de lui à Frédéric, électeur de Saxe, et ce prince éclairé appela Luther en 1508, probablement vers la fin de l'année, comme professeur à l'université de Wittenberg. Wittenberg était un champ sur lequel il devait livrer de rudes combats. Luther sentit que là se trouvait sa vocation. On lui demandait de se rendre promptement à son nouveau poste. Il répondit sans délai à l'appel, et dans la précipitation de son déplacement, il n'eut pas même le temps d'écrire à celui qu'il nommait son maître et son père bien-aimé, au curé d'Isenach, Jean Braun. Il le fit quelques mois plus tard. « Mon départ a été si subit, lui écrivit-il, que ceux avec lesquels je vivais l'ont presque ignoré. Je suis éloigné, je l'avoue, mais la meilleure partie de moi-même est restée près de toi. Luther avait été 3 ans dans le cloître d'Erfurt.